Accès libre avec Luc Fortin.
Ça commence à être sérieux quand Maurice Bolduc dit « Stand by ». C'est qu'on est sur le point de vous saluer, ce que nous faisons. En ce lundi 13 juillet, tout de suite, je vous précise que cette émission sera valide. Je vous énumérer la liste des arguments, mais principalement, Christiane est en vacances et surtout, vraiment, l'actualité autour du handicap a ralenti. Il y a la COVID, il y a les vacances, et on dirait que les journalistes se sont rendus compte que la COVID-19 influençait négativement nos vies sur le tard. Alors, ils écrivent des choses que nous, on vous a dit depuis un certain temps. J'ai vraiment, vraiment hâte de causer avec Manon Gauvin. Manon qui a décidé, il y a quelques années, de mettre sur pied une fondation, une association pour offrir du répit dans sa région à Granby. Elle a réussi à lever 500 000 $. C'est pas rien dans ce coin-là. Il sera également question du port du masque, devenu obligatoire depuis 5h30 ce matin sur le territoire du Grand Montréal et même, je présume, un peu partout au Québec pour les gens qui utilisent le transport en commun. Ça, vous le saviez. Mais avez-vous pensé à ceux et celles qui ne sont pas capables de mettre ou de retirer le masque par eux-mêmes? Qu'est-ce qui arrive? Il y a un préposé qui arrive à 7h15 le matin, on enfile le masque à la personne, et lorsque la préposée revient la coucher le soir, on lui retire le masque. Du moins, moi, j'ai une de mes amies qui m'a dit, quand je pars le matin, puis je passe l'après-midi avec, mais ça n'a pas d'allure, et pourtant. On causera avec François Beauregard de l'association Valentin AUI. Et pour le moment, Julien Prudhomme, qui lui est directeur des départements de sciences humaines de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est également chercheur en politique de l'autisme et des enfants à besoins particuliers. On lui cause parce que Julien a proposé un petit coup de gueule, je dirais, public. Et je trouvais ça intéressant. Puis en même temps, je me disais, voyons donc, c'est pas encore réglé cette situation-là. Julien Prudhomme, bonjour.
Bonjour.
Vous écrivez dans une lettre ouverte, donc, qu'il est temps que, je paraphrase, là, mais que l'ergothérapeute, l'orthopédagogue et autres professionnels attitrés au développement de nos enfants quittent les CHSLD et retournent vers leurs tâches pour lesquelles ils sont formés. C'était pas fait, ça, encore, donc.
Pas complètement. Ça a tardé. En fait, on constate, à notre grande surprise, vous n'êtes pas le seul surpris, que plusieurs des thérapeutes très spécialisés, comme des ergothérapeutes, des orthophonistes, des psychoéducatrices, qui travaillent en temps normal, par exemple en CLSC ou en centre de réadaptation auprès des jeunes enfants, qui avaient été envoyés au tout début de la pandémie pour donner un coup de pouce en CHSLD, ont été laissés dans ces CHSLD bien plus longtemps qu'ils ne l'auraient dû, bien au-delà de la durée de l'urgence. Et pendant qu'on les laisse en CHSLD ou qu'on ne fait revenir qu'une partie de l'équipe au compte-gouttes dans leurs fonctions habituelles, les programmes normaux à l'attention des jeunes enfants qui en ont besoin, mais ne peuvent pas redémarrer.
Ben ouais.
Et les services sont suspendus.
Oui, pendant ce temps-là, l'armée, qui n'a pas cette expertise-là, elle retourne, puis on laisse avec nos professionnels qui ont une expertise à offrir ailleurs, sont encore pris là. J'ai envie de vous demander pourquoi avoir pris la parole à ce moment-ci. Pourquoi pas avant, pourquoi pas après, mais en même temps, je vous dis tout de suite merci de l'avoir fait. Mm-hmm. Mais pourquoi à ce moment-ci?
D'une part, il y avait beaucoup de bruit en tout début de pandémie. Alors, il y a beaucoup de monde qui ont crié puis qu'on n'a pas entendu. Je pense que vous le savez mieux que moi. Ce qui est de plus en plus étonnant à mesure que le temps passe, c'est de voir qu'on ne rapatrie pas les professionnels dans leur centre de réadaptation, par exemple, alors même que l'urgence dans les CHSLD s'est beaucoup résorbée. Au début, ils avaient toujours les administrations de la santé avaient toujours au moins l'excuse de l'urgence de pandémie. On pouvait être d'accord ou pas, mais ils pouvaient se rabattre derrière cette excuse qui n'est plus valable aujourd'hui. Et je vous dirais, moi, ça fait une vingtaine d'années là, que ça fait partie de mon travail que d'observer les transformations dans le réseau de la santé et en particulier dans le monde de la réadaptation. Et je crois que je n'ai jamais vu un comportement aussi indéfendable de la part des administrations de la santé.
Parce que, c'est ça, il faut le préciser, si je me fie à votre lettre ouverte, ce n'est pas une consigne ministérielle, c'est vraiment à la pièce. Ce sont les CIUSSS, les CIS qui déterminent qui devra continuer à aider dans les CHSLD et qui peut retourner au travail.
Vous voyez, en ce moment, il y a une comparaison qui est très éclairante qu'on peut faire sur l'île de Montréal si on compare deux centres de réadaptation. L'un étant l'Institut Raymond Devoir, qui fait partie du CIUSSS Centre-Sud. L'autre étant le Centre Marie-Enfant, qui est associé à Sainte-Justine et ne fait donc pas partie d'un gros CIUSSS. À l'Institut Raymond Devoir, qui fait partie du CIUSSS, les services auprès des enfants de réadaptation, par exemple du langage, auprès des enfants d'âge préscolaire, ont été suspendus et le CIUSSS ne fait toujours pas d'efforts pour reprendre les services à une allure à peu près convenable. Ils offrent un minimum de services à une poignée d'enfants un peu plus chanceux, mais c'est tout. Tandis que l'autre centre de réadaptation, qui est à peu près à 10 minutes de voiture du premier, le centre Marie-Enfant, lui a commencé à beaucoup plus tôt à faire de la réadaptation, à faire de la télé-réadaptation à distance dès le mois d'avril et à faire certain pourcentage de rencontres en présentiel dès le début juin. Qu'est-ce qui explique la différence entre ces deux centres? C'est pas le travail des professionnels sur place. Dans le premier, à l'Institut Raymond Devoir, qui fait partie du CIUSSS Centre-Sud, il y a plein de professionnels sur place. Certaines ont été rapatriées. D'autres ont une petite poignée a pu rester sur place et mettre sur pied une télé-réadaptation qui fonctionne. Mais on leur met des bâtons dans les roues, on les empêche de fonctionner et on refuse de rapatrier rapidement les collègues qui restent pour relancer des services. Alors même qu'on parle de services qui s'adressent à des enfants d'âge préscolaire, c'est-à-dire pour lesquels les mois sont comptés avant de recevoir les services nécessaires à leur entrée scolaire.
J'essaie de comprendre, peut-il y avoir des avantages financiers pour gérer comme ça presque à la petite semaine?
On peut spéculer sur les raisons. En fait, ce sur quoi on doit insister, c'est à quel point il s'agit d'un choix de la part du CIUSSS. Il n'y a aucune raison matérielle claire qui justifie qu'on ne relance pas un niveau convenable de service dans un territoire comme celui du CIUSSS Centre-Sud, mais c'est le cas aussi dans d'autres territoires, par exemple sur la Rive-Nord, dans le coin de Terrebonne et tout ça, on voit la même dynamique, c'est-à-dire des services de réadaptation pour lesquels les orthophonistes ne sont ou les ergothérapeutes ou d'autres professionnels ne sont pas rapatriés ou ne sont pas complètement rapatriés et auxquels on ne donne pas les moyens pour agir convenablement auprès des enfants.
Mais bien
parce que ça coûte moins cher? Oui et non, parce qu'on a des professionnels qui sont quand même payés, payés soit pour être incapables d'offrir des services, soit pour celles qui n'ont pas été rapatriées, pour faire des tâches absolument sous-qualifiées pour elles, et surtout beaucoup moins urgentes.
Bon, bien que je vous ai remercié de l'avoir fait, comment se fait-il que c'est Julien Prudhomme qui en parle et non, je ne sais pas moi, des ordres professionnels ou des associations de dits professionnels pour alerter un peu l'opinion publique?
C'est une excellente question. En fait, les ordres professionnels ont alerté l'opinion publique. Il y a une coalition d'ordres qui s'est rassemblée beaucoup autour de l'ordre des orthophonistes, justement, mais aussi il y avait l'ordre des ergothérapeutes, etc., qui ont mené une démarche que moi, je trouvais très bien, qui devait même, à la suite de cette démarche, dont des lettres parues en public, devait rencontrer la ministre McCann, mais finalement, le changement de ministre leur a un peu coupé l'herbe sous le pied. J'espère que ces ordres professionnels n'ont pas renoncé. J'espère que les syndicats aussi de ces professionnels, mais évidemment qui en ont plein les bottes, là, vont trouver le temps aussi pour défendre ces professionnels-là. Je sais que dans certaines régions, par exemple en Estrie, il y a des syndicats qui ont mis leurs pieds à terre beaucoup plus vigoureusement, mais c'est sûr qu'on n'était pas à Montréal non plus. L'ampleur de l'urgence n'était pas la même. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ces acteurs-là, ordre professionnel, syndicats, mais aussi les associations de parents et de patients aussi, qui sont pris en otage là-dedans, vont devoir mettre les responsables des CIUSSS d'une part et le nouveau ministre d'autre part devant leurs responsabilités. Ouais. Parce que ce qui est assez stupéfiant et qui justifiait ma propre intervention, c'est à quel point il s'agit d'un choix conscient, délibéré et irréversible de la part des autorités de la santé.
Bon, parlons à ceux et celles qui, comme moi, peut-être, on ne connaît pas ça tant que ça. Puis on pourrait se dire, ben là, on est à la mi-juillet. C'est juste un mois et demi de plus. Puis on est peut-être là prêt à quelques semaines de vacances. Est-ce que vraiment ça a un impact sur le développement de l'enfant, tout ça, là?
Bien, d'une part, c'est effectivement dommage, mais il y a beaucoup d'enfants pour lesquels c'est foutu.
À ce point-là?
Des enfants. Là, on parle souvent de services qui sont destinés aux enfants d'âge préscolaire et qui n'auront plus droit à ces services-là une fois qu'ils auront fait leur entrée scolaire. Et là, on a des enfants, des familles qui s'étaient fait dire au mois de mars-avril, attendez, on suspend les services, on vous revient. Mmh. Et qui, pendant qu'on se parle, vous et moi, sont en train de recevoir des belles lettres qui leur expliquent, ben finalement, on laisse faire. Finalement, vous n'en aurez pas de service. Puis ils se font dire ça, ben oui, à la mi-juillet, alors qu'il est trop tard pour intervenir. Il y a ça qui est à briser le cœur, qui est odieux, mais il y a le fait aussi que ne pas relancer la machine convenablement. Les CIUSSS pourront toujours dire on fait des petites choses ici et là, mais la machine n'est pas relancée de façon convenable et loin de là. Ne pas relancer la machine convenablement aujourd'hui, au mois de juillet, ça veut dire se mettre en situation à cause des vacances, mm-hmm. à cause du temps qui passe. Ça veut dire se mettre en situation où on ne pourra pas repartir non plus la machine à l'automne. Et là, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a certains CIUSSS, notamment à Montréal, qui se donnent des plans, des plans de relance, entre guillemets, qui sont tout sauf des plans et qui offrent tout sauf de la relance et qui ne prévoient pas la reprise de service avant novembre, décembre. C'est de ça qu'on parle. Alors, s'il y a urgence en ce moment, c'est non seulement une urgence pour offrir des services dès cet été, mais c'est pour dès cet été s'assurer de ne pas être dans la même situation à l'automne.
Bon, merci d'avoir tiré la sonnette d'alarme. On va garder l'oreille attentive. Souhaitons que M. Dubé, qui a sûrement quelques dossiers sur son bureau, accepte de regarder celui-là. Vous le mentionnez dans votre lettre, lui qui est surtout là, semble-t-il, pour essayer de négocier, de calculer, d'ajouter et de retirer en termes de finances. Ben, peut-être que là, entre autres, il va voir qu'il y a un intérêt financier à sortir certains professionnels de CHSLD et de les mettre là où on a vraiment besoin d'eux, parce que tout ça aura un impact plus tard, là, lorsque ces enfants-là vont grandir, c'est certain.
Ça aura un impact plus tard, puis on parle de mettre à profit des ressources qu'on a déjà. Il ne s'agit pas d'enlever des ressources, par exemple, dans des milieux qui sont prises avec une urgence. Il s'agit simplement de laisser les professionnels travailler convenablement.
Merci beaucoup, Julien Prudhomme.
Merci à vous. Au revoir.
carte bleue. Je note dans mon grand cahier rouge. T-shirt dans veinture ta tour. Vas-tu dropper une couette, quelque chose, je suis déjà à genoux.
Si moi jamais de l'effet de l'enfant, c'est moi qui dégage qui prend la peur.
Les louanges avec Pitou sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Maude Mascotte, Serge Poulin, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, toi-même.
Ben oui, merci beaucoup. On se connaît tout le monde, donc on va se tutoyer, bien que certains ont des responsabilités importantes et d'autres des grandes frustrations. Et voilà pourquoi on se joint aujourd'hui, puisque il y a des organismes représentant les usagers du transport adapté qui demandent des assouplissements dans l'obligation du port du masque rendu obligatoire donc aujourd'hui, du moins pour notre territoire à nous. Je le disais, j'en parle avec Maude Mascotte, qui elle-même est usagère du transport adapté et malheureusement n'est pas en mesure de mettre ou retirer son masque. Serge Poulin, lui, est directeur général du regroupement des usagers du transport adapté pour le Montréal métropolitain. Maude, je me trompe ou effectivement, là, t'es pas en mesure de retirer ou mettre le masque rendu obligatoire?
Non, j'ai besoin d'assistance pour le mettre et l'enlever, j'y arrive avec grande difficulté, donc je suis appareillée des deux oreilles. En plus, je porte des lunettes, donc ça fait beaucoup à mettre autour des oreilles.
Les données lunettes. Maude, est-ce que jusqu'ici tu l'as porté? Comment ça se passe depuis le mois de mars?
C'est sûr que j'ai pas pris le transport depuis ça fait à peu près 2 semaines que j'ai commencé à le reprendre.
D'accord.
Et là, durant la COVID, j'ai déménagé aussi, donc je suis plus dans un endroit où que les gens sont là pour m'aider. Donc je suis plus dépendante de quelqu'un. Donc si la personne elle est pas là, je peux pas mettre le masque. Donc, je me retrouve un peu au dépourvu de prendre le transport adapté. J'ai dit le prendre sans le masque une fois parce que la personne n'était pas là pour m'aider à le mettre. Donc, voilà.
Bon, ce n'était pas obligatoire, mais suffit d'appeler à la STM pour se rendre compte qu'à toutes les 30 secondes, ils nous répètent que c'est important de le mettre et qu'on nous encourage à le porter. Et alors, est-ce que tu te sens mal? Est-ce que le chauffeur te regarde de travers? Comment tu te sentais les 2 dernières semaines?
C'est ça que là, c'est arrivé une fois et chauffeur ne portait même pas de masque.
Ah, ça aide. Moi, je pense parce qu'il voulait être gentil.
Sinon, les 3 fois que je l'ai repris, j'ai mis un masque parce qu'il y avait quelqu'un pour m'aider à le mettre. Et une fois sur deux, le chauffeur en avait ou pas. Donc, soit à l'aller, il l'avait, le retour, il l'avait pas. C'est sûr que en ayant cette restriction de le mettre obligatoire depuis aujourd'hui, je trouve que ça met beaucoup de pression dans le sens que en plus de prévoir nos sorties en fonction de quelqu'un qui est capable de nous mettre avant de partir. Donc déjà, c'était compliqué pour nous de sortir, de prévoir nos transports et tout. Et en plus, on nous oblige de porter le masque. Je trouve que ça fait beaucoup.
Ouais. Serge, j'ai vu le communiqué passer. Malheureusement, je n'ai pas vu qui avait émis le communiqué. Donc, je ne sais pas si c'est l'ensemble des regroupements d'usagers, si c'est un regroupement particulier. Je crois qu'il est sorti, ou en tout cas, moi, je l'ai vu passer début de la semaine dernière, c'est tout ça, ou fin de l'autre semaine. Mais en tout cas, c'était au moins un bon 10 jours après qu'on ait eu vent de l'obligation du 13 juillet. Est-ce que vous avez, disons, attendu un peu pour avoir le son de cloche des usagers, pour savoir un peu quelle était la réaction des gens?
OK, Luc, ben, prenons les choses dans leur ensemble, là. Bon, premièrement, il n'y a toujours pas de décret ou d'arrêté ministériel, appelle-le comme tu veux, qui nous parle de l'application. Alors, nous, ce qu'on a fait, on n'a pas fait un communiqué, on a fait circuler dans le milieu communautaire la position du regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal, parce qu'on fait aussi du régulier, ça nous concerne aussi.
Bien sûr.
Et il est clair dans notre position que, bon, on est pour le masque obligatoire, ça c'est clair, on voit ça d'un bon œil. Cependant, et Maud est la preuve vivante, il y a des exceptions qu'il va falloir considérer. Une personne comme Maud qui n'est pas capable de mettre ou enlever son masque, elle est déjà exclue par le groupe Québec.ca parce que c'est à peu près la seule chose qu'ils nous disent. Les personnes étant incapables de mettre ou d'enlever le masque sont déjà exclues de cette obligation-là. Cependant, il ne faut toujours pas que Maud, par exemple, mette un masque, parce qu'elle pourrait risquer de s'infecter. Et c'est très dangereux. Alors moi, je ne lui conseillerais jamais de faire ça, même en tout temps, qu'elle ait de l'aide ou pas, c'est trop dangereux. Alors nous, notre position, c'est de dire, ben, écoutez, oui, c'est correct, on est pour ça, l'obligation du masque. Parce que, tu sais, la question là, que je pose souvent à des gens quand on parle du masque, c'est de dire, ben, moi, je dis souvent, puis ça, c'est pas moi, là, j'en fais une copie d'Amir Kadir, qui dit, est-ce que cette attente de voir un plus proche agoniser, mourir ou voire même souffrir parce que tu lui aurais donné ça, la COVID, sans avoir de symptômes. Donc, c'est asymptomatique. C'est ça la vraie question.
Ouais, ouais, ouais.
Ça, là, c'est ça la vraie question. C'est pas est-ce que ça me tente de mettre un masque? Il n'y a personne comme ça.
Bien sûr.
OK, ça, on va s'entendre, mais il n'y a personne comme ça. Sauf que, est-ce qu'on peut être ensemble responsables collectivement tout en permettant justement à des personnes qui, pour multiples raisons. Là, on parle de Maud qui a un problème moteur et auditif et tout ça, mais tu as tout l'aspect des TSA, des personnes atteintes d'autisme et des sciences intellectuelles moyennes et profondes qui, pour eux autres, ça veut rien dire, là, je veux dire. Bon, alors, il faut considérer tout ça et on demandait, nous, dans notre position, qu'il y ait une période de sensibilisation aussi auprès de la population pour dire, et tu as exactement posé la question à Maud, c'est-à-dire, est-ce que tu te fais regarder tout proche?
Ouais.
Parce que l'idée, c'est qu'elle ne peut pas en aucun temps. Elle pourrait risquer de s'infecter elle-même, ce qui est dangereux. Alors, c'est pour ça que je te dis, nous, notre position, et c'est bon, j'ai fait un détour pour revenir à ta question, mais en fait, on publie pas parce qu'on n'a pas de décret. C'est un ballon que M. Legault a lancé dans l'air avec son ami Horacio. Puis, on n'a pas de délai d'application. Quand je demande au transport adapté, la seule chose que je sais, c'est que le transport adapté oblige ses chauffeurs maintenant à mettre des masques, ce qui n'est pas le cas dans le réseau Didi. Donc, tu vois encore là, rôle de deux poids, deux mesures. Et pendant ce temps-là, on ne peut pas avoir nos sièges en arrière du chauffeur. En tout cas, il y a plusieurs dossiers liés à ça, mais la question est de... Nous, en tout cas, notre position, c'est de dire il y a des personnes exclues qui, si ce n'était que dans leur incapacité, le mettraient, le masque. Ici, on ne parle pas des têtes brûlées. Là. Il y en a toujours des têtes brûlées, toutes sortes de raisons. On ne veut pas mettre ça. Mmh. Ça, il y en aura. Ça, je ne peux rien faire contre ça. Sauf que nous, ce qu'on va défendre, c'est les gens qui ne peuvent pas le mettre. Tu sais, le communiqué, je vais te donner un scoop, là, quand le décret va sortir. Nous, on a un communiqué qui va paraître, dépendamment de ce qu'il va y avoir dedans, dans lequel on va dire, ben oui à la santé, mais non à l'exclusion.
Oui, oui, c'est ça, tout à fait. C'est parce que là, en plus, on nous dit que, bon, je ne sais pas à l'heure qu'il est, là, si ça a été fait officiellement ou pas, mais en tout cas, le 18, partout à l'intérieur, au Québec, on sera tenu de porter le masque. C'est sûr que c'est loin du transport, là, mais en même temps, c'est le même problème.
Et c'est le même continuum, Luc.
C'est le
même continuum. C'est juste qu'on l'applique à la ville. D'ailleurs, Execo travaille avec la ville, justement, à partir de la position qu'on a développée dans le milieu et qui va l'étendre à la ville, parce que c'est le même problème. Là.
Donc, souhaitons que les gens se parlent pour trouver des solutions communes aux différentes règles qui sont, somme toute, les mêmes règles.
Exact, exact. Ouais. Mais on peut-tu avoir un décret? Moi, je trouve ça fou actuellement, ce que la santé publique fait. Ils nous improvisent des affaires, mais on n'a pas de décret d'application. Fait que moi, quand je demande au TA, ben, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Est-ce que tu vas embarquer le monde? Est-ce que tu vas leur demander de preuves médicales? On attend les directives de la santé publique. Okay. Non, c'est ça la réponse que j'ai. Puis moi, je peux pas avancer plus. Il y a des gens qui m'ont dit, bah, toi, vous faites rien. Je ne peux rien faire. J'ai aucun décret ou arrêté ministériel, appelle-le comme tu veux, sur l'application de la consigne.
Mais souvent, on critique que les lois qui prônent l'accessibilité manquent de coercition. Pour une fois que là, ça joue à notre avantage, à savoir qu'ils ne peuvent pas nous laisser sur le bord de la route parce que, bien qu'ils disent que ce soit obligatoire, il n'y a pas de mordant dans cette règle-là, ben, tant mieux.
Non, mais le problème, c'est que je peux pas. Moi, si Maud, par exemple, m'appelle, puis qu'elle me dit, ben, au transport adapté, je me suis fait regarder drôlement, ou le chauffeur n'a pas eu une bonne attitude, parce que j'ai pas de masque, ben, j'ai rien sur le quoi m'appuyer.
Qu'est-ce qui serait souhaitable? Supposons la santé publique, les sociétés de transport, les municipalités appellent les regroupements d'usagers de transport, que ce soit adapté ou collectif, régulier. Qu'est-ce qui serait prôné pour des gens comme Maud?
Que les gens travaillent avec les associations de personnes en situation de handicap. Depuis le début de la pandémie, je le crie à qui veut bien l'entendre, les personnes handicapées ne sont jamais incluses dans les décisions. Mmh. Ça nous arrive, boum, boum, on pose des corridors sanitaires, boum, boum. Là, après ça, il faut ramasser les pots cassés. Puis je peux te dire que les équipes de travail sont épuisées parce que ça change de jour en jour. Fait que c'est autant dans les corridors sanitaires que dans le transport adapté, que dans le transport régulier, la réalité des personnes en situation de handicap, telles que Maud et plusieurs autres, notamment toutes les DI, TSA, tout ça, n'est jamais prise en compte.
Ouais.
C'est ça le problème.
Je crois connaître la réponse, mais j'ai quand même envie de poser la question. Maud, si, supposons, une des possibilités était que le chauffeur t'aide à placer ton masque, est-ce que tu serais à l'aise avec ça?
Ben oui, j'étais, mais c'est en autant que lui porte le masque aussi.
OK. Mm-hmm. Mais c'est sûr que, bon, cette question-là, faut comme Serge le soulignait un peu plus tôt, il faut en parler à des médecins, il faut parler de la transmission possible et tout, là. Mais en tout cas, on va voir où on en est. Il faut que ce soit entendu. Il faut que les gens comprennent que trop souvent, dans cette situation, si on passe la gratte, on tasse tout, puis on oublie les gens qui ont des besoins particuliers. Maud, Serge, on se tient au courant. Moi, il me reste 10 secondes pour vous dire que de l'autre côté, je parle à François Beauregard, entre autres de l'association Valentin Ahuy.
Vous écoutez Accès libre.
Elle pense trop fort. Adèle, l'histoire en avance quand sa tête se tord. Elle a les yeux mouillés. Adèle est tellement à faire et refaire. Et que tout soit dentelle. Adèle, il faudrait partir voir la mer. L'hiver, quand l'attente se fait longue, longue, Adèle espère la chaleur à venir entre ses jambes. Elle dit, mais j'ai plus l'envie de cette mascarade futile, du mascara indélébile. Coulisse qui tâche et persiste pour être belle et fragile. Enveloppée. Mais Adèle, Adèle, oh, 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 devrait courir déshabillée.
ce que j'écoutais ce matin chez moi du Ariane Roy. Adèle, vous aurez peut-être remarqué, avec les Louanges et Aramis un peu plus tard, c'est sensiblement la même famille musicale, les trois pièces. On me dirait que c'est le même producteur, même studio, que je ne serais pas surpris. Donc, ben voilà. Et également, tiens, tout en vous rappelant que je suis avec Maurice Bolduc à la mise en onde, on est là pour cette émission d'Accès libre jusqu'au 26. Bon, on ne sera pas là jusqu'au 26, mais on vous fait faux bon pour la semaine du 20. Alors, cette édition-ci sera valide jusqu'au 26 juillet. Donc, de retour dans deux semaines. Aujourd'hui, avec François Beauregard, l'association Valentin à UI, si les noms propres étaient valides au Scrabble, il y a un H, un U tréma, un Y, ce serait très payant, bien que le nom de famille soit quand même assez court. L'association, qui est un organisme caritatif français, qui se consacre donc à l'autonomie des personnes handicapées visuelles. Et c'est important de le préciser parce que lorsqu'on regarde ce que Valentin Huy a fait de sa vie, lui qui était finalement, somme toute, un pédagogue et qui s'est consacré à la personne handicapée visuelle, on pourrait penser que cette association qui porte son nom est une association pédagogique, une association, disons, académique, voire peut-être même une école. Mais ce n'est pas le cas, François Beauregard.
Oui, bonjour Luc, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Ça va bien, merci. Oui, l'association Valentin Huy, Huy c'est H-A-U-Y, alors vaut mieux le prononcer que le lire. L'association Valentin Huy, c'est un peu comme l'INCA française. C'est un peu comme une entreprise ou c'est privé, mais c'est reconnu en France d'intérêt public. C'est assez gros, ça a un budget au-dessus de 30 millions d'euros. Ils vivent essentiellement de dons, d'entreprises de levée de fonds, des choses comme celle-là. Et ils se sont consacrés depuis 1886 à aider les jeunes aveugles qui sortaient de l'école pour aveugles. Alors, si on retourne derrière, Valentin Huy a fondé l'école, l'Institut des jeunes aveugles en France à la fin du 18e. Mais rendu à la fin du 19e, il y a un monsieur Maurice de la Cizeranne, aveugle lui-même, fraîchement diplômé de l'École des jeunes aveugles, qui s'aperçoit que après l'école, il n'y a plus grand-chose à faire pour ces jeunes adultes. Alors lui, il s'est dit, on va commencer à mettre en place une structure pour leur apprendre des métiers, pour faire des choses utiles, pour gagner leur vie, pour devenir indépendants et de ne pas après leur scolarité, là, se retrouver au crochet de la société. Alors, l'association Valentin Huy se consacre à ça. Ils ont une demi-douzaine de bureaux en France, des centres de formation, des structures d'accueil. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont une très importante bibliothèque, en grande partie maintenant sous forme électronique.
C'est ça, tant braille que sonore, même des partitions.
Des partitions, toutes sortes de choses. Ils ont près de 50 000 documents de toutes sortes. Et ce qui est bien pour nous ici au Québec, c'est qu'ils sont très heureux de partager leur bibliothèque sonore avec des correspondantes partout dans le monde. Alors, si on va sur le site de l'association Valentin Huy, on peut aller sur l'onglet de bibliothèque, de la documentation, et on peut s'y abonner. Et on a le droit à voir, eux, ils sont tout à fait sensibles de voir à ce que la diffusion du matériel pour les personnes handicapées visuelles ne soit pas exclusive à la France. Ouais. C'est universel. Alors ça, c'est une ressource de plus qu'ils offrent généreusement. Alors, petit cousin québécois.
Voilà. J'aimerais ça qu'on revienne sur Louis-Maurice Monnier de la Cizeranne. C'est sérieux, là. Oui. C'était quand même un gars qui s'est impliqué à bien des niveaux. Je lisais dans les notes que tu m'as fait parvenir, et ça, je l'ignorais, que c'est un de ceux qui a pensé à l'idée d'abréger le braille français.
Oui. Oui, tout à fait. Non seulement il était un élève, mais en plus, il s'interrogeait au problème de l'écriture braille. Alors, il a créé l'abrégé orthographique français à l'origine, en 1880. Puis ça, évidemment, ça a évolué depuis. Mais essentiellement, c'était la première fois qu'on avait un braille plus rapide, qui n'était pas que ABC, mais avec des abréviations pour des phonèmes ou des mots répétitifs là, qu'on trouve souvent dans le vocabulaire.
Donc peut-être alors, juste ça, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers, parce qu'il y a deux codes d'abrégés ou d'abréviations. Il y a le code, disons, étendu ou les mots. Dans ce cas-ci, c'est plutôt, supposons, AU. Alors, on utilise le K pour AU.
Oui,
le W exact. Pour OM, ce qui fait que pomme s'écrirait P-W-M-E. Par contre, voilà. Malheureusement, aujourd'hui, en 2020, on va écrire M-H-S-M, ce qui n'est pas nécessairement là où Cizeran avait amené le principe, mais c'est quand même,
c'est
fallait
idée.
Y penser, là.
C'est la même idée. Au lieu de,
ben oui.
d'écrire lettre à lettre, d'être capable d'avoir des phonèmes, des contractions. Et donc, il était allumé à cette affaire. Et il a aussi constaté que c'était difficile pour les jeunes aveugles de faire autre chose que de se tourner les pouces mm-hmm. après avoir appris le braille. Alors, c'est sûr qu'au début, les premiers ateliers de formation à la fin du 19e, ben là, évidemment, on parlait de travaux, que ce soit de la typographie ou des choses de ce genre-là, ou de l'imprimerie. Mais oui. là aussi...
J'ai lu kinésithérapie.
Kinésithérapie, ce qu'on peut appeler la massothérapie. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'handicapés visuels aujourd'hui qui sont
des
massothérapeutes. Alors, c'est un peu la même chose. Il y a eu une imprimerie braille, évidemment, qui a été... créé en 1910. Il y a eu une bibliothèque sonore. Évidemment, au début, c'était des supports sonores qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Ils se sont mis à l'audio description des films aussi.
Ah, puis très, très rapidement, là, 1989.
Oui.
Je ne savais
oui,
même
oui.
pas que ça existait en 89. Et non seulement eux se sont dit que ce serait une bonne idée de l'instaurer, mais ils l'ont fait en 89.
Voilà. Alors, ils ont été toujours, je dirais, à l'avant-garde ou d'être pour permettre une meilleure accessibilité. Alors, de ce côté-là, c'est un organisme là tout à fait louable et qui revient à Maurice Monnier de la Cizeran de l'avoir fondé, lui qui était sensible à ses propres besoins et à ceux de ses congénères. Alors, de ce côté-là, ben, c'est ouais. un clin d'œil aux handicapés visuels français la veille de la prise de la Bastille. Voilà.
tout à fait.
Ben, c'est demain. Hein?
Ben oui, non, je sais bien. Pour ceux qui nous écoutent en direct, c'est tout à fait.
C'est demain. Enfin, c'était la semaine dernière, si vous êtes là le 20.
Oui. François, mis à part fonder l'affaire, quel rôle a-t-il exercé une fois qu'on a ouvert qu'on a mis la clé dans la porte, mais pour l'ouvrir et non la fermer?
Ben, au début, il a été aussi actif. Il va être pendant 27 ans, il va être le directeur général de l'organisme qui l'aura fondé. Il va avoir créé des périodiques, le Louis Braille, le Valentin Avis, une revue en braille, des choses de ce genre-là. Il va être donc un diffuseur d'informations, puis il va être pendant 27 ans secrétaire général de l'association.
Ouais.
C'est vraiment lui qui l'a tout mis sur pied, là. Ce qu'elle est aujourd'hui, en grande partie, c'est son œuvre qui, par la suite, s'est poursuivie.
Et lorsqu'on regarde les chiffres, tu parlais tantôt, 30 millions, entre autres, d'euros qu'on va chercher bon an, mal an, année après année, mais...
On parle de 600 personnes qui
c'est
travaillent.
Ça, le nombre d'employés, dont plusieurs, presque le tiers ont un handicap visuel.
Oui, plus du tiers et presque la moitié, 3400 bénévoles, 117 points de service, ils ont de l'hébergement pour 220 personnes, ils ont des facilités de ce côté-là, ils ont des cours de locomotion, de braille, locomotion, on dirait, orientation,
de mobilité
ici,
ouais.
Braille, informatique, ils ont une boutique d'achat en ligne, un magazine trimestriel avec 60 000 abonnés.
Wow.
Alors, c'est un organisme qui, comme je le dis, est assez comparable à ce que on a comme service ici par l'INCA, dans la même genre de structure, d'une structure privée, mais d'intérêt public, hein,
ouais.
Ou au Québec, en partie aussi par l'INLP.
Mais tu imagines, 60 000 abonnés, c'est possiblement plus d'abonnés que Le Devoir en a. C'est quand même...
Ben, je dirais que ça a l'air du double, là, mais enfin, mais c'est autre chose. Il y a certainement un besoin,
ouais,
de communication qui a été immédiatement identifié par Maurice de Suzerain quand il a fondé l'Institut. Comme je le disais, il a aussi fondé des périodiques en braille, mm-hmm, pour permettre l'accès à l'information aux handicapés visuels, qui encore aujourd'hui est un challenge,
ouais,
mais il l'était d'autant plus quand la seule mode de communication était le papier braille à la fin du 19e, et que la société ne se faisait pas trop de cas de savoir si les handicapés visuels participaient à la vie commune.
Un jour, on fera une petite série là, sur Charles de l'Épée et ensuite Valentin Ahuy de l'Épée,
oui,
qui, en aidant les sourds, a comme...
Oui, l'abbé de l'Épée a commencé avec l'École des sourds. Il est décédé presque à la Révolution française, là, pile.
Mais il n'est pas
Valentin
le seul.
Ahuy, non. Valentin Ahuy, lui, a vécu avant et après la Révolution, où est-ce qu'il a d'ailleurs joué un rôle politique assez intéressant. Mais certainement qu'on en reparlera.
Ouais, ouais.
Il y a eu beaucoup de gens qui ont été des pionniers, qui ont fait beaucoup de choses très bien, alors que personne ne s'occupait des humains qui étaient, je dirais, pris avec un handicap.
C'est ça.
Dans une société qui n'était vraiment pas faite pour eux.
Et particulièrement, je pense à la personne voyante, on est plus familier avec Louis Braille, mais
oui,
mis à part la personne handicapée visuelle qui connaît un peu Valentin Ahuy, souvent, en général, dans la société, à moins peut-être de rester en France, c'est une personne qu'on ne connaît pas. Oui, oui, tout
connu.
À fait.
Voilà.
Merci beaucoup, M. Beauregard, et bonne prise de la Bastille.
Merci.
Salut. Bye.
Décolle ta pensée de moi, de tes paupières, de tes yeux clairs. Vole mon petit cœur tout mêlé, d'une main de phare, fais-moi voir clair. Ces nœuds de pêcheur que le papillon a brisé, ses ailes trop de galère. Aussitôt ça s'éclaire. Et ce qu'il faut, trop mot de dos, beau, peu de mots, c'est déjà beau. Lire les pensées, c'est fou, c'est faux. Gate SMS, welcome fin semaine.
voulait S, OS, que souhaite West, en S, faire part pour straight up, retourner sa veste.
C'est dans les clauses, elle te met dehors. Plus elle te ghost, plus elle te hante. Coup de théâtre, tu pensais pas t'ennuyer du coup de ses hanches. But you're about that, toujours à l'abordage. Bronzé sous le limelight, tu sais plus quoi faire. Sous ton chaîne, les shows, yeah, amène la leur. Ils entendent même plus tes appels à l'aide. Tu penses être big guy, vu rouge comme un left eye. Burn down the house, tout son nouveau béguin. Elle en a vu d'autres, pas sur ton cœur pour elle. Tu peux pas handle, t'as les yeux que pour elle. Fuck.
C'est intéressant ce franglais-là qui n'est pas le chiac néo-brunswickois dont Radio-Radio nous avait abreuvé les oreilles. Et il n'y a pas que Mary Gold qui utilise ce type de langage. Je veux dire, de plus en plus, le rap keb en est parsemé. C'est Aramis avec « Yeux clairs ». Bon, parlons de la Fondation Un Souffle et des Ailes qui souhaite construire une ressource de 8 places dans la région de Granby, offrant de l'hébergement permanent et du répit, en fait, permanent entre la vie familiale et le moment où, malheureusement, il va falloir être en résidence pour personnes âgées. Et celle qui a eu l'idée au départ, c'est Manon Gauvin, qui est fondatrice, qui est maman d'Anthony, qui lui a 29 ans, qui vit avec une sévère paralysie cérébrale, me dit-on. Bonjour Manon.
Salut.
Je suis vraiment content de vous parler parce que, bon, c'est pas la première fois qu'on parle de répit, de besoins, de tentatives, mais là, vous, là... En tout cas, moi, de l'extérieur, ça m'impressionne. Quand j'ai lu ça, je dis « Ah, enfin, une belle histoire! » Parce que je trouve que souvent, quand on parle du handicap, on manque d'argent, ça n'arrive pas. Là, vous avez porté ça à bout de bras, ça fait 8 ans. Parlez-moi des origines du besoin où vous vous êtes dit « Bon, let's go, Gauvin, t'es capable, là, tu peux chialer toute ta vie, mais là, il faut que tu trouves une solution.
» Ben, en fait, j'avais débuté un projet peut-être 2 ans avant d'avoir créé la fondation. J'avais créé un mouvement qui s'appelait SOS Famille Naturelle, où ce que j'avais fait, un site web où ce que les gens pouvaient s'inscrire, puis mettre le portrait de leur famille en ligne en disant est-ce que quel âge avait l'enfant dont ils prenaient soin, est-ce qu'il était encore en couple, est-ce qu'il l'était plus, quels étaient les motifs qui faisaient qu'il demandait un placement à un moment donné. Donc j'avais pu, avec ce site-là, il y avait une 60aine de familles qui s'étaient inscrites de partout à travers le Québec, dresser le portrait des besoins. Puis là, j'étais allée à l'Assemblée nationale, mais ça, c'était du temps de Pauline Marois. Puis j'avais été montrée à quel point qu'au fil des années, là, ça devenait difficile sur les couples. Ouais. Puis qu'il y avait souvent séparation. Puis fait que j'avais fait cette première tentative-là pour me rendre compte que le dossier a été tabletté, ça n'a pas été long. Puis, fait que là, j'ai compris à ce moment-là que ça donnait rien de mettre toute l'énergie au niveau
du politique.
Des décisions gouvernementales. Moi, c'est trop complexe. Fait que je me suis dit, Manon, si tu veux faire quelque chose, fais-le concrètement. Donc, j'ai décidé de partir cette fondation-là aux côtés d'une autre maman qui était une de mes amies qui avait un fils lourdement handicapé aussi. Je l'avais parce qu'il est décédé l'an dernier. Mais donc, on a créé le projet en se disant, on va faire quelque chose parce qu'on était toutes les deux à l'aube de notre quarantaine. Puis, on savait qu'à un moment, il y aurait un deadline dans la vie où ce que on se disait, va falloir penser à se soulager de ce fardeau-là, mais en même temps, tu sais, on n'avait pas envie de se diriger vers des CHSLD, puis c'est seulement ça qu'on nous proposait. Fait qu'on a dit, on va créer un milieu alternatif entre les deux.
Mais Manon, est-ce que j'ai... En me disant, hey, c'est pas drôle, c'est plus difficile de mouvoir et d'émouvoir le politique... que de ramasser 500 000 avec des canettes vides à 5 cents la canette, là, je calculais, c'est 20 millions de canettes, ou bien on se dit, ben non, à un moment donné, il faut arrêter d'attendre après le gouvernement, il faut que la société et ses individus prennent également le relais et disent, hey, moi, je veux prendre soin des gens qui restent dans mon coin.
Ouais. Ben, tu sais, dans un monde idéal, le gouvernement couvrirait toutes ces zones grises-là qui sont pas couvertes, là. Dans un monde idéal, il y aurait des enveloppes budgétaires pour tout ce qui est pas pris en charge présentement au gouvernement, mais c'est tellement complexe, il y a tellement de demandes, il y a tellement de groupes de personnes qui revendiquent des enveloppes budgétaires.
Ouais,
ben oui. À un moment donné, c'est ça qui arrive. Il y en a plus, puis là, tu te bats au front pour essayer de changer les choses, mais c'est de l'énergie perdue parce que t'es pas assez comme groupe pour faire une différence. Donc, je préférais là me dire... je vais le faire en me disant, mon Dieu, je vais y arriver, mais tu sais, j'ai jamais arrêté de croire. Dès le jour 1, je me suis dit, si tu fais ça, tu te rends jusqu'au bout.
Mm-hmm.
Puis j'y ai cru à chaque jour, à chaque journée que je me levais, en me disant un petit peu plus, un petit peu plus loin. Puis je voyais le compte de banque monter, puis je prenais mon énergie là-dedans en me disant, je vais y arriver, je vais y arriver. Puis je m'étais donné une décennie. Puis tu vois, ça fait 7 ans, là on a franchi 7 ans au 31 mai.
Et il y a reconstruction qui débute à l'automne.
Oui.
Wow. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Bon, je faisais des blagues avec le 20 millions de canettes pour les 500 000, mais quand on fouille un peu, on se rend compte que c'est quand même 200 000 $ qui provient des canettes vides. Là. Ça aussi,
ouais,
c'est ahurissant.
212. En fait, sur le site web, on voit bien que les 6 dernières années, ils ont rapporté 171 000. Puis la dernière année qui vient de se terminer au mois de mai n'est pas encore ajoutée sur le site web. C'est ça, on manque de temps. À un moment donné, il faut être tout ce qu'on a à faire. Mais c'est 41 000. Donc, ça porte à 212 000 $ là, l'argent qui a été ramassé en canette. Là. C'est une de mes plus grandes fiertés parce que quand j'ai créé cet organisme-là, je me suis dit comment je vais ramasser l'argent. Tu sais, c'est tout le temps ça, hein. Tu te dis,
ouais.
J'ai pas envie de faire du porte-à-porte, j'ai pas envie de me mettre dans une entrée de commerce à vendre des petites étiquettes, à faire 50 cents l'étiquette, tu sais. Puis je me disais comment je peux ramasser les sous à puis pas prendre 25 ans pour ramasser ça, là, tu sais, puis me ramasser fatiguée puis à bout de rien. Fait que tu sais, j'ai pris cette idée-là en me disant un petit peu plus, un petit peu plus. Puis écoute, la première année, il est rentré 4 000 $. La deuxième, on a dumpé à 12 000. Donc, on a triplé la première année. Puis après ça, 25 000. Fait qu'on a doublé la deuxième année, puis ainsi de suite.
Mais il y a quand même quelqu'un qui faisait du porte-à-porte pour aller chercher les canettes, ou c'est juste...
C'est papa. Okay. C'est mon père de 83 ans qui est encore super en forme. Il avait 75 quand j'ai créé l'organisme. Puis il aime ça se rendre utile. Puis il utilisait sa retraite. Il joue pas au golf.
Je vous coupe parce qu'il me reste plus grand temps. Puis je veux vraiment... Oui. Bon, finalement, de Granby, on s'en va à Roxton Pound. La ville qui vous a offert un bail en phytéotique. C'est quoi ça?
Dans le fond, il me donne le terrain, mais sur un bail de 50 ans. Donc, le terrain leur appartient, mais ils me permettent de construire la ressource sur leur terrain, puis d'y opérer la ressource pendant 50 ans. Et c'est renouvelable dans 50 ans pour un autre 50 ans. Donc, j'ai des clauses à respecter, du genre, si dans 5 ans, la
ressource... Qui paye les taxes foncières?
C'est eux.
Oh, wow.
C'est eux. Ouais. Non, vraiment, là, c'est tout un... Vive la ville de Roxton Pond. Franchement, là, le comité qui est là, wow. C'est vraiment génial.
Si la construction débute à l'automne, vous pensez qu'elle va se terminer quand?
Bien, on vise le printemps 21 pour l'ouverture.
Quand même. Hey, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'entendre cette histoire-là.
Tant mieux. On est bien fiers. Puis je terminerai en disant que je vais profiter de l'auditoire parce que dans le fond, papa...
20 secondes.
OK. Papa vient d'avoir un gros accident avec la vanne jeudi dernier, justement. Scrap total, la vanne avec laquelle on ramasse les canettes. Donc, s'il y a quelqu'un qui aurait une vanne pas trop chère à vendre, qui a pas besoin d'être super top shape, mais quand même en bonne condition, parce que nous autres, on arrache les banquettes, on ramasse les sacs de canettes avec ça.
Allez sur le site de la Fondation Un Souffle et des Ailes. Merci beaucoup. Ouais. Lâchez pas, Manon Gauvin. Maurice Bolduc, merci pendant les vacances de Jean-Sébastien d'avoir été là. Je vous rappelle qu'on n'est pas là le 20. On se retrouve le 27. Merci, Christiane, pour ton support.